Bon, eh ben on va commencer. Donc, bienvenue à tous. On reçoit à nouveau donc Marjolaine et Alexandre pour venir nous parler d'Existence B, savoir où est-ce qu'ils en sont dans ce beau projet qu'ils sont venus nous présenter donc il y a un an maintenant sur le serveur. Donc, Marjolaine et Alexandre, merci d'être là et je vous laisse démarrer.
Merci. Bah, bonsoir à tous.
Bonsoir à toutes et à tous.
Alors, on va commencer par se présenter rapidement. Je vais présenter Alexandre. Alexandre, il a un parcours dans la sécurité publique en très condensé. Et aujourd'hui, il est expert en sécurité systémique. Il est formateur et conférencier, formateur pour les élus et conférencier pour les élus et pour tous les citoyens.
Je suis plus dans la sécurité publique, mais voilà, ça a été ma formation. Marjolaine, elle, est facilitatrice graphique. Elle produit aussi du contenu pour le web. Et notre interaction, notre coopération est extrêmement importante parce que justement, sa faculté, c'est de faire comprendre des notions complexes par des moyens qui simplifient la compréhension, c'est ça la facilitation graphique. Et quand j'avais créé SOS Maire, une association qui alertait les maires sur le manque de résilience alimentaire, énergétique ou même santé, ce sont des notions complexes au final parce que il y a plein de maillons de chaîne à associer. Et il y a des fois, il y a certains esprits qui sont extrêmement performants sur leur segment, mais quand il s'agit de relier les segments entre eux ou les maillons de la chaîne, ça devient complexe. Et donc, la faculté de Marjolaine de faire comprendre ces notions complexes à un auditoire le plus large possible, c'est ce qui a été déterminant dans notre coopération à SOS Maire. Et comme SOS, bon, c'est une alerte, mais une alerte sans les solutions, ça n'a pas vraiment de sens, hormis alerter, faire peur, et assez de peur déjà dans la société, il faut proposer les solutions. Mais les solutions systémiques sont forcément complexes au prime abord, et puis après, quand on pratique, on s'aperçoit que c'était très simple, que c'était à notre portée. Voilà.
Et puis vous verrez du coup une grosse partie de la présentation de ce soir qui est faite en facilitation graphique pour aussi se rendre compte de ce que c'est. Alors justement, donc l'année dernière, quand on était venu vous présenter Existence B, on vous avait présenté un projet assez conséquent qu'on va représenter par la suite. On va aussi vous expliquer pourquoi, mais on l'a découpé en sous-projets aujourd'hui. Donc on a ce qu'on appelle le gros projet d'innovation sociétale. On a un moyen projet d'entreprise et un petit projet d'atelier de cuisine. On va vous expliquer vraiment dans le détail pourquoi on en est arrivé là et puis ce qu'on met sous chacun de ces projets. Mais là, on va rentrer dans le détail pour l'instant du gros projet d'innovation sociétale. Tu fais le constat?
Alors le gros projet d'innovation sociétale, c'est en fin de compte partir des faiblesses de notre société et aller vers quelque chose de très positif. Donc d'où l'existence B. L'existence B étant un espèce de plan B à une existence A qui aujourd'hui semble un peu prédéterminée, entre guillemets. Donc pour éviter qu'on se retrouve dans la prédétermination des catastrophes qui sont figurées, qui sont dessinées à l'écran pour vous, il faut qu'on arrive à prendre conscience des problématiques sociétales et mettre en face de ces problématiques des solutions. Donc c'est un gros projet, Existence B, dans le sens où effectivement, ça a de gros projets qu'il faut impliquer les citoyens. Et aujourd'hui, les citoyens ne sont pas toujours conscients qu'il y a des problèmes, même si de plus en plus, les gens entendent qu'il y a des problèmes écosystémiques. Donc écosystème, vous voyez ce que c'est. Et donc écosystémique, c'est prendre en considération la mécanique systémique qui agit sur plusieurs leviers éco, l'économie, l'écologie, etc. Alors, comme vous le voyez représenté, on a un problème de résilience alimentaire, c'est un problème de sécurité nationale. Qu'est-ce que c'est la résilience? Donc, c'est-à-dire que les camions ne venaient plus jusqu'au supermarché, faute de cyberattaques, faute d'internet final. Ce qu'on peut trouver dans les champs, même en campagne, c'est pas forcément ce qu'on peut manger. Les producteurs locaux, il en manque cruellement. Le mot cruellement est bien choisi. Et en fin de compte, c'est un vrai, une vraie problématique de sécurité nationale à résoudre très rapidement. Pénurie de pétrole, eau, ainsi de suite. Il faut bien calculer, par exemple, pour le pétrole, que nous, la France, on est dépendant à 99% des importations de pétrole. Importation de pétrole dit mouvement de transporteurs qui eux-mêmes dépendent du pétrole. Bon, bref, donc on rentre dans le systémique. Et pareil, cyberattaque, prix du pétrole qui devient trop cher, qui fait exploser les business models des transporteurs, et où on se retrouve avec des problèmes de pétrole. Pareil, trop de demandes mondiales pour des réserves qui se tarissent, et forcément, on a des problématiques systémiques. Bref, je ne vais pas vous faire toute la liste, parce que là, ce qu'on veut vous apporter, c'est quand même du positif, sans faire dans le positivisme, mais ce qu'on veut vous apporter, c'est vous amener à regarder ce qui existe déjà, que nous, on a déjà identifié, et qui permet d'être pragmatique pour se dire que à toutes ces problématiques, nous avons des solutions. Et le premier levier pour mettre en branle ces solutions, c'est l'éveil des consciences. Donc, pour terminer, hein, rapidement, dans les risques systémiques, les risques sanitaires, vous avez vu ce que c'était. Le manque d'anticipation des personnes en charge des crises, manque de masques, manque de ceci, manque de cela, c'est une problématique systémique aussi. Tout le monde, pourquoi c'est une problématique systémique? Parce que dans les ministères, dans les mairies, dans les préfectures, tout le monde pense que l'autre a fait le boulot. Voilà, et il s'agit plus de faire la chasse aux sorcières. Ce qu'il faut, c'est que maintenant, on puisse vite trouver des solutions. Et donc, ça, c'était tout ce qui était périphérique.
Ça, c'est un vortex.
Voilà, c'est un vortex.
Ce sont deux vortex qui sont représentés. Ce qui est autour, c'est le vortex un petit peu de tout ce qui tire vers le bas. Et au centre, je te
Au
laisse
centre,
continuer.
on a donc ce qui est identifié. Il y a des choses qui existent déjà. Ce que nous, on veut faire, c'est surtout mettre en synergie des choses qui existent déjà. On a nos propres idées aussi, nos propres expérimentations, Marjolaine et moi, qui vont s'intégrer dans ce gros projet, donc où vous voyez donc tout en haut une micro-société dans le sens où ce qui nous tient à cœur, c'est que on ne fasse pas de l'entre-soi. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des personnes des quartiers difficiles, des personnes qui sont telles qu'elles sont partout en France, telles qu'on les trouve en France. Si on devait s'imaginer là faire une photo satellite de la France. Figer l'image et qu'on regarde qui est sur le territoire, on voit plein d'humains qui sont sur le territoire. Ces humains eux-mêmes se pensent, moi je suis français de souche, il y en a d'autres qui pensent, ah ben non, moi je suis un migrant. Nous on s'en fout, nous ce qui nous intéresse c'est comment ces humains font société ensemble. Et donc l'histoire de la micro-société représentative de la sociologie française, c'est ça. C'est de se dire, on doit être le plus inclusif possible. Nous aimons bien les gens qui s'intéressent à l'écologie, mais ce n'est pas vraiment ceux qui nous intéressent le plus. Pourquoi? Parce que ceux qui sont déjà convaincus, il n'y a plus à les convaincre. Par contre, si on se met un samedi après-midi dans un supermarché aux heures de pointe et qu'on se pose la question, est-ce que ces gens-là sont tous concernés par l'écologie? Est-ce qu'ils sont prêts à faire en sorte que nous laissions collectivement un héritage écologique, de préservation des écosystèmes à nos enfants, dans ce supermarché, on peut s'en douter, quoi. On peut douter de la réponse. Est-ce que tout le monde est conscient des problématiques? Voilà. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'avoir, je le répète, une société, micro-société la plus inclusive pour que tout le monde puisse se représenter dans cette micro-société, y compris les gens qu'on retrouve le samedi aux heures de pointe dans les supermarchés. Donc ça passe aussi par les questions de considération de l'alimentation. Si on a une problématique de résilience alimentaire, il faut reterritorialiser l'alimentation. Il faut reconsommer local, mais tout ça, vous l'avez déjà entendu, c'est pas vraiment nouveau. Il y a de la nouveauté malgré tout, mais on vous en parle un peu plus tard. Il y a les outils de transition agricole. Nous sommes contre l'écologie qui accuse. Nous sommes contre le discours qui vise à dire à des gens qui, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, ont été contraints par des pressions politiques, par des pressions de lobbies économiques et industriels, de changer leur mode d'agriculture. Nous sommes contre accuser ces gens-là d'avoir fait ce que la société leur demandait, à savoir utiliser des produits phytosanitaires et nourrir le monde. Ils ont fait ce que la société leur a demandé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que ces gens-là arrêtent d'être sous pression et qu'ils puissent voir économiquement comment ils vont pouvoir faire transition. Nous avons trop de personnes dans le monde de l'agriculture qui souffrent aujourd'hui d'être accusées d'être quasiment des tueurs. Ça ne va pas. On ne peut pas faire société en s'accusant les uns les autres. Et ceux qui nous disent que maintenant il faut accuser les agriculteurs, ce sont quasiment les mêmes qui leur demandaient d'utiliser des produits phytosanitaires. Voilà. Donc nous, on est sur une ligne. OK, on a à préserver des écosystèmes, on va le faire ensemble.
Ça fait le lien avec le dessin du bas qui est la convivialité. Il y a vraiment l'idée de se dire qu'effectivement, on n'est pas dans la culpabilisation. On va maintenant travailler ensemble et en le faisant d'une manière sympathique, en fait, qui donne envie. Comme l'idée, c'est d'être un démonstrateur de la transition, ben, il faut être désirable. Donc la convivialité va vraiment occuper une place très importante. Vous verrez par la suite aussi dans les ateliers, c'est quelque chose qui revient, qui est très fort. Donc ça passe par avoir un restaurant sur place, un bar, organiser des événements. Et ces événements, notamment, vont beaucoup s'appuyer sur l'art, donc qui est le point d'après, les petits dessins d'après, parce que l'art, c'est très intéressant sur différents niveaux. Il y a l'art des artistes professionnels qui sont une source d'attraction. Et d'ouverture d'esprit. Et puis il y a l'art qu'on pratique tout un chacun et qui permettent aussi de venir travailler sur soi, d'apprendre sur soi, de sentir fier aussi d'avoir fait parfois des choses à plusieurs. Donc c'est aussi une source de cohésion.
Voilà, c'est ce qui permet aussi de sortir de certains schémas mentaux où les gens sont tétanisés, ne savent plus comment faire. L'art permet aussi de dédramatiser, de mettre un nez rouge et des fois des vérités qui font peur. Il y a toute une démarche à travers la production artistique qui permet en fin de compte de créer du lien entre les personnes qui n'arrivaient plus à se parler. Rire de soi, c'est déjà rentrer en lien avec d'autres personnes. Mais bon, on ne va pas tout développer maintenant. Mais voilà, donc c'est pour ça que l'art a c'est un point important du projet parce qu'il faut mettre en image, il faut mettre en scène, il faut faire des jeux de rôle. Je fais une seconde là-dessus. Nous sommes tous dans cette société avec des jeux de rôle qui nous ont été quasiment imposés depuis notre naissance. Nous sommes dans des jeux de rôle. C'est-à-dire que nous pensons être ce qui est parfois écrit sur notre carte de visite. Nous pensons être le matricule de la sécurité sociale. Nous pensons être. Bon, ben, pourquoi pas? Mais il y a peut-être d'autres jeux de rôle à inventer. D'autres jeux de rôle qui nous permettent de faire économie autrement. On en parlera aussi. D'autres jeux de rôle qui nous permettent d'avoir un rapport à l'autre qui n'est pas celui. Complètement fermé, qu'on s'est imposé ou que la société nous a imposé. Il y a l'innovation low-tech aussi. Et l'innovation low-tech, bah, c'est arrêter de mentir sur justement la préservation des écosystèmes. Si il y a certains manias de l'écologie, de la quatrième révolution industrielle qui nous disent que l'écologie, c'est balancer maintenant du CO2 à travers des serveurs informatiques. Il faut quand même se poser la question de leur logique. Le low-tech, c'est intéressant dans le sens où il y a des fois des choses qui sont inventées, qui ont été inventées, qui ont déjà dégagé leur CO2. Et est-ce que les faire refonctionner, ce n'est pas plus intéressant que d'inventer la nouvelle usine qui va inventer la nouvelle voiture qui va, elle, être plus écologique, mais pendant qu'on a inventé des usines, on en a dégagé du CO2. Donc si la problématique, c'est vraiment que le CO2, bah, il va falloir quand même se poser la question de ceux qui nous disent qu'à travers la technologie, on va vers moins de CO2. Donc, nous, le low-tech, ce n'est pas un retour en arrière. Ça touche presque au côté artistique, parce que le low-tech, c'est parfois créer de l'événementiel. Je vais prendre un exemple pour que ça vous figuriez bien le sujet. Un événementiel entre low-tech et art, ça pourrait être C'est pas ce que nous allons faire, mais ça pourrait être le steampunk. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le steampunk, c'est ces personnes qui se déguisent, qui reviennent à l'époque victorienne, donc l'époque où pas mal de choses fonctionnaient à la vapeur, et qui réinventent le futur à partir de la machine à vapeur. Alors, c'était juste pour figurer le propos, c'était juste pour donner un exemple. Nous, on n'est pas sur du steampunk par exemple, particulièrement, mais c'est-à-dire qu'il y a des machines qui ont été inventées au 19e siècle qui font largement le boulot avec beaucoup moins d'énergie que ce qu'on utilise aujourd'hui, et surtout avec une énergie qui a moins d'impact sur les territoires que le truc au lithium, que le truc. Voilà. Donc c'est une vraie réflexion à travers le low-tech. Pourquoi c'est vrai?
Ouais. Donc bah, ça c'est juste un petit rappel de ce qu'on a dit, hein. C'est Existence B, c'est vraiment l'idée de d'aller expérimenter et puis ensuite de pouvoir être, comme on disait, un démonstrateur d'un autre mode de vie qui sera éco-régénératif à échelle de société. Quand on dit micro-société, c'est pas un terme qui est toujours compris. Il faut visualiser ça comme un petit village. Donc c'est vraiment ça pour proposer une alternative enviable au mode de fonctionnement actuel. Ça, c'est une autre manière d'expliquer Existence B. Alors ça, c'est quand on le montre à des élus, en l'occurrence, quand on avait eu un rendez-vous dans une communauté de communes. Donc Existence B, c'est un démonstrateur de la transition écosystémique qui passe par la pratique. En fait, l'idée, c'est d'arriver à sensibiliser par la pratique. Donc on veut faire sur un maximum de sujets. Le premier sujet, on en a quand même déjà un petit peu parlé, c'est sur l'empreinte carbone. L'idée, c'est de réussir à diminuer la consommation. Aujourd'hui, on consomme plus de ressources qu'on en a à disposition. Donc, comment on vient travailler, par exemple, sur une agriculture qui est régénérative? Comment on vient travailler sur la mutualisation des objets? On va aussi travailler sur la notion de l'urbanisme. Ça, on a rencontré là récemment bah, quelqu'un qui est urbaniste, donc qui va nous aider à travailler sur cette notion-là, dans l'idée de voilà comment on arrive à créer une petite ville ou un petit village de demain qui sera bas carbone mais confortable, dans l'idée de travailler sur des ergonomies qui soient plus résilientes. Sur la partie économique. Donc ben là, l'idée, on en a déjà un petit peu parlé, mais c'est un axe sur lequel on va revenir après quand on vous parlera de l'entreprise. On est sur un principe d'économie, mais régénérative. Donc c'est vraiment une nouvelle manière de considérer l'économie, de relocaliser la production et la consommation, donc comme disait Alexandre, notamment sur la partie alimentaire, de venir travailler sur des business models qui soient plus éthiques. Et avec ça, bah, de réussir à rendre les territoires, en tout cas le territoire sur lequel sera installée Existence B, plus attractif. Sur la partie R&D, Alexandre vient d'en parler avec tout ce qui est innovation low carbone. Là, l'idée, en tout cas, c'est d'être aussi, vous voyez, avec les petites ampoules là à côté, c'est d'être à fond sur la créativité, de pouvoir mixer les compétences, aller chercher des gens peut-être qui sont ingénieurs, qui ont l'habitude d'être très créatifs et d'inventer des choses, avec bah, des gens qui ont des expertises aussi autres, qu'on va pouvoir venir créer des synergies et inventer par exemple, sur l'agriculture sans pétrole. Voilà, il y a discuté avec des agriculteurs de comment on pourrait faire, par exemple, revenir aussi à des pratiques qui se faisaient. Ça peut être vraiment comment dire, des manières de fonctionner hyper intéressantes et c'est ce qu'on voudra faire. Il y a toute une partie pédagogique qui est hyper importante dans le projet, puisqu'on est vraiment dans l'idée de sensibiliser. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir créer, ou en tout cas, pareil, créer des synergies dans tout ce qui est formation, formation aux agriculteurs qui ont envie de changer leur manière de faire, former des néo-ruraux, des gens qui auraient envie de se mettre les mains dans la terre, mais qui sont des citadins. Utiliser, enfin comment dire, plutôt intégrer les agriculteurs des pays du Sud. On sait que là aujourd'hui on va vers des mutations au niveau climatique. Donc les agriculteurs par exemple de Madagascar qui ont l'habitude de cultiver dans un pays avec de nombreuses sécheresses, ils ont plein de choses à nous apprendre et la pédagogie vis-à-vis des élus. Après, est-ce que tu veux faire ça?
Sur quoi? Sur
Sur
l'emploi?
la suite, sur le ouais.
Alors, ouais, nous avons vraiment des partenaires. Alors, je reprécise, hein, pour que vous suiviez bien le fil. On est sur le gros projet. Le gros projet, c'est ce qui donc doit s'installer sur un territoire, sur un terrain. Donc, ça, c'est vraiment l'objectif. C'est pas immédiat, mais beaucoup de sujets dont on parle maintenant, on a déjà les contacts, on est déjà en interaction sur ces sujets-là. Donc, je reviens sur l'emploi. Justement, on étudie beaucoup les nouvelles façons d'amener les personnes à un emploi qui sert l'intérêt général et non pas mettre un emploi à quelqu'un qui veut juste faire de l'alimentaire. Il y a obligation aujourd'hui, enfin, à notre sens, hein, que l'emploi soit adapté à un monde qui régénère des écosystèmes. Et donc, il y a de l'ingénierie à faire dans l'emploi, et cette ingénierie est déjà faite. On a consulté il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 jours les anges gardiens de Los Angeles, par exemple, et les anges gardiens savent faire en sorte que des personnes sans qualification deviennent et d'une très productives pour justement la résilience du territoire, soit complètement dans l'économie, soit récompensées à hauteur des engagements qu'elles produisent pour cet intérêt général, et puis que, tout simplement, l'emploi leur donne le sourire. Nous, l'idée, c'est ça. Arrêter de faire bosser des gens qui en fin de compte, vont certainement, à leur manière, sans le vouloir, mais par état de nécessité, polluer. Des emplois polluants, il y en a beaucoup. Ah ben ça sert à rien, ça. Il y a peut-être moyen justement de faire l'inverse, de faire qu'il y a des emplois, et ça existe déjà, il y a déjà des méthodes qui, en fin de compte, au contraire, nous reterritorialisent de l'alimentation, recréent de ce qu'on appelle l'économie invisible. Enfin, pardon, c'est pas que ça va recréer, c'est-à-dire qu'on valorise l'économie invisible, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas quantifiable au niveau économique dans les bilans comptables aujourd'hui, il est important dans cette nouvelle forme d'emploi de valoriser ce qui n'est pas quantifié. Quand vous avez plein de gens qui rendent des services gratuitement, oui, c'est pas compté. Le bénévolat n'est pas compté dans les tableaux comptables, mais vous retirez le bénévolat, il y a certains secteurs d'activité dans notre belle France qui s'effondrent. Il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de travail qui n'est pas valorisé. Donc, pour revenir au sujet de l'emploi, aujourd'hui même, il y a moyen de mixer donc valorisation de ce qui était considéré comme du bénévolat et écologie, enfin plutôt valoriser les actions qui vont faire qu'on va dépolluer et on va restaurer des écosystèmes. Voilà. Et puis, bah, donc, tout ça participe du lien social. Et donc, là, une nouvelle fois, si je refais référence aux anges gardiens, bah, il n'y a rien de tel que le lien social, que de retrouver justement la voie de la discussion entre les uns et les autres. On n'est pas tous obligés de bien s'aimer, mais en tout cas, on peut déjà discuter de ce qu'on va faire pour notre territoire et ce qui va le rendre agréable pour que, en fin de compte, on trouve plein, plein de leviers pour que, justement, cette transition écosystémique puisse se faire. Et alors, tout ça, en fin de compte, toutes ces interactions que vous pourriez voir donc, avec tous les graphiques, c'est ce qui peut intéresser pour autant les feuilles de route sont le PCAET, le SNBC, enfin bref, c'est des feuilles de route qui sont pondues par les ministères pour que les territoires, donc les préfectures, les mairies, les communautés de communes, appliquent ces feuilles de route, mais il n'y a pas toujours la méthodologie pour faire que les populations de ces territoires comprennent l'intérêt de faire ces feuilles de route. Donc, les feuilles de route en tant que telles, elles sont intéressantes parce que c'est le PCAET, c'est le plan climat, air, énergie territoriale. SNBC, c'est la stratégie nationale bas carbone, mais il existe aussi le PAT, le projet d'alimentation territoriale. Tout ça, c'est pour reterritorialiser l'alimentation, recréer des dynamiques. Mais pour ça, il faut un éveil des consciences. Il faut un effet des consciences citoyen, et que les gens puissent se représenter dans cette feuille de route. Il faut que les personnes qui occupent le territoire puissent sentir qu'elles ne vont pas perdre, mais qu'au contraire, elles vont gagner. Ça s'appelle de la gouvernance. Et donc tous les graphiques, là, c'est de la gouvernance écosystémique.
Passer la suite.
Bon, voilà,
Ça,
c'est bon.
on l'a déjà.
Et puis donc après, on va faire une pause là, parce qu'on est déjà au 10e slide. Donc juste pour rappeler ce qu'est le gros projet Existence B. Donc l'idée, c'est 50 foyers, 150 à 200 personnes, qui sont en interaction permanente. Il y a une charte, c'est nous sommes des êtres humains qui allons laisser une planète à nos descendants. Qu'est-ce qu'on laisse? Est-ce qu'on laisse un héritage financier, immobilier, avec une planète flinguée? Ou est-ce qu'on crée des conditions d'une planète qui bon, partiellement se régénère? Est-ce qu'on la laisse souffler? Voilà. Qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? Donc, il faut que qu'il y ait une représentativité de tout le monde. Il faut pas qu'il y ait d'exclus. Il faut que personne handicapée puisse se dire, bah, existence B, j'ai ma place. Personne avec des défaillances doit se dire qu'elle a sa place.
Le fait d'aller chercher une représentativité, parce qu'on nous pose souvent la question, c'est vraiment de se dire que le modèle soit le plus aisément duplicable d'un territoire à l'autre. Donc, on n'a aucune envie que ce soit une communauté avec des gens qui vont se ressembler. On a vraiment à cœur que, effectivement, ça soit le plus proche possible de ce qu'est aujourd'hui la société française. Parce que c'est pour nous un gage de pérennité du projet et de la possibilité justement de le dupliquer, de le multiplier, alors probablement sous d'autres formes, parce que à chaque territoire, il faudra que le projet s'adapte, mais c'est vraiment pour nous une chose très importante. Moi, je serais assez pour qu'on finisse en fait le grand projet et qu'on puisse poser des questions à la fin, une fois qu'on aura expliqué. Sur la partie autonomisation alimentaire et régénération des sols dont on a déjà parlé, il y a une grosse évolution quand même qu'on a faite entre le moment où on a commencé à travailler sur le projet et aujourd'hui. Au tout départ du projet, on était vraiment sur l'idée de pouvoir arriver à l'autonomie au sein du projet Existence B. Et on s'est fait un petit peu, pour être honnête, rentrer un peu dans l'art par un agriculteur qui nous disait, enfin voilà, qui nous a un petit peu poussé dans nos retranchements sur ce sujet-là et sur déjà la faisabilité de le faire, y compris avec 150 personnes qui travaillent. Et donc on s'est rendu compte qu'effectivement, le plus intelligent, c'était au contraire de pouvoir venir travailler et tisser des liens avec tout le réseau local, ce qui en plus d'un point de vue des valeurs et de la vision est quelque part encore plus, enfin beaucoup plus cohérent aussi avec ce qu'on a envie de faire. Donc c'est pour ça qu'on parle d'autonomisation, mais on ne vient pas chercher l'autonomie, c'est pas du tout un projet qui est autarcique, hein. Au contraire, on va venir vraiment travailler avec le territoire, voir quels sont les producteurs déjà sur place et comment est-ce qu'on arrive à créer là aussi des synergies ensemble, comment est-ce qu'on peut être de la main-d'œuvre pour eux quand ils en ont besoin, voilà. Et l'idée de travailler, d'être sur des projets communs. Et puis juste une petite précision sur les tuyaux qu'on voit en bas à droite, c'est une serre, comment on dit? Le terme
C'est
low-tech, enfin c'est une serre.
low-tech, c'est justement c'est tout l'inverse des fermes bio, pardon, pas les fermes bio, mais les fermes 2.0, qu'on appelle ça, le truc de la quatrième révolution industrielle, où on va faire des fermes aquaponiques toutes numériques qui vont peut-être griller avec une éruption solaire. Éruption solaire, c'est pas moi qui vous dis à quel point ça peut être catastrophique. C'est SCORE, l'étude de 2014, qui explique qu'on peut vite retourner au 18e siècle. Donc, les trucs 2.0, c'est bien beau, mais il faut quand même pouvoir être résilient. Et là, donc, cette technologie, bah, c'est du low-tech.
Voilà, et en l'occurrence, l'agricultrice qui fait partie de l'équipe qui s'appelle Céline Basset, qui travaille sur ce sujet-là, elle travaille aussi énormément sur la partie régénération des sols. Donc on n'est pas uniquement sur la production alimentaire, on est aussi à essayer de travailler avec elle et puis ensuite avec les agriculteurs, les producteurs locaux, comment on arrive à venir faire de l'agriculture de nouvelles manières pour régénérer les sols.
Alors sur le territoire, entre guillemets, là où sera implantée Existence B, on va dire ça comme ça, et donc on en a déjà parlé, il y aura de l'innovation, le tech. On va parler de nouvelles mobilités. Alors, on a avec nous des gens absolument géniaux, Sébastien Culac et son équipe, qui depuis des décennies maintenant fabriquent des véhicules qui sont vraiment calibrés laboratoire, de légèreté, de rapport des véhicules de demain, puisqu'on ne se passera pas non plus de véhicules. Et il faut qu'on arrive à faire quasi pas carbone. Et le pas carbone, bah, c'est peut-être justement réhabiliter des machines qui existent déjà, les transformer, les mettre à air comprimé, comme sait le faire une entreprise normande, Anthos Air Power. Ils font rouler à l'air comprimé des petits véhicules et même des gros véhicules comme un Renault Master. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et on a la chance d'avoir donc des personnes comme Sébastien Culac et toute son équipe qui savent faire ça. On a des gens qui ont travaillé sur les crises et qui...
Gaël Musquet.
C'est Gaël Musquet qui est un hacker éthique, qu'on appelle ça, et qui a travaillé à restaurer tous les moyens de communication ou des moyens de communication sur des zones où il y a eu des problèmes climatiques, des cyclones, etc. Et qui est vraiment un fervent défenseur, lui aussi, de la low tech. Bon, bref. On a bien sûr la recyclerie, il y a le travail en auto-habitat. On va vous parler un peu plus tard du chanvre, qui a une place, mais vous imaginez pas, extrêmement déterminante dans notre projet. Alors on parle bien du chanvre qui est légal, hein, qui est réglementé par les lois françaises et européennes. Il y a l'art, on en a parlé, des événements, il faut qu'on se marre. Ce qui nous intéresse, nous, c'est comme on vous l'a dit, et j'en termine là-dessus, c'est pas de convaincre des convaincus. Ce qui nous intéresse, c'est que je reprends mon exemple sans que ça soit péjoratif pour les gens qui vont au supermarché. Il faut que ces gens se disent waouh, ah ben ça c'est bien. Au final, on peut avoir un mode de vie qui soit confortable, on ne retourne pas en arrière, mais en même temps, et c'est pas le même en même temps. En même temps, on est en train de vraiment prendre un chemin qui va faire que notre planète ne sera pas flinguée pour nos enfants. Voilà.
On a presque fini sur cette partie là. C'était pour vous expliquer un petit peu comment on travaille sur le projet. Une des choses qui nous prend énormément de temps, c'est comment on vient enrichir cette vision. Comme on est sur un projet qui est sociétal, forcément, il est très holistique, donc il touche à tout. Et donc, on travaille beaucoup en faisant des rencontres, en fait, et en échangeant avec des gens qui sont spécialistes dans leur domaine. Donc, on avait, pour vous donner quelques exemples, échangé avec un éthologue, c'est-à-dire un spécialiste de l'étude des comportements des animaux dont les humains font partie, qui était extrêmement intéressant pour la partie gouvernance. On a travaillé avec plusieurs agriculteurs, donc un qui est en conversion, un autre qui travaille en agriculture de conservation des sols, des gens qui sont de terrain et qui peuvent justement parfois venir aussi nous challenger sur des avis, des comment dire, des visions qu'on peut avoir et qui de les confronter eux à leur expertise de terrain. On avait aussi été contactés par Polytechnique avec qui qui nous ont interviewés et on avait essayé de monter un partenariat avec eux. Pour l'instant, ça s'est pas fait. Mais toutes ces rencontres-là, on en fait plusieurs par semaine, hein, ça prend beaucoup de temps. Même quand ça aboutit pas, finalement, ça nous permet toujours d'avancer dans la vision et de l'affiner. Après, on travaille, on a des rendez-vous, donc ça prend aussi du temps de préparation, de se déplacer avec une communauté de communes. On a eu un rendez-vous avec une région, on a eu plusieurs rendez-vous dans des mairies. On fait aussi de la prospection pour des financements privés, donc là, on a des contacts et C'est plutôt bien engagé, en tout cas, on a des bons contacts qui nous ont mis en relation. Et on a eu des échanges avec certains d'entre vous qui nous ont fait part de pistes de terrain. Donc voilà, c'était pour vous donner quand même un petit aperçu de ce qu'on fait sur ce grand projet. Et voilà, donc là on a fini pour la première partie, donc on va peut-être un petit temps de questions.
Ok. Mel, qu'est-ce que tu veux éventuellement relancer les bots?
Oui, je fais ça de suite, 10 petites
Ok.
secondes.
Ça évite d'avoir des fichiers trop lourds et des coupes.